Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaire, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
Alors, comment bien préparer son dossier de voyage? Vous voulez voyager, aller à l'étranger? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez que plusieurs personnes se font refuser les visas lorsqu'ils introduisent leur dossier au niveau des ambassades parce que les dossiers étaient incomplets ou c'est pas bien constitué. Voilà, donc c'est ce qui arrive hein, lorsque le dossier est mal présenté. Mais d'après les experts, lorsque vous arrivez à réunir toutes les pièces, vous arrivez à bien constituer votre dossier, donc il sera facile pour vous d'obtenir le visa. Alors, comment bien préparer son dossier de voyage? Comme je le disais tout à l'heure, nous recevons aujourd'hui comme invité Arsène Mumba Angoy, chef d'agence de voyage 3G, voilà, en service. Alors, dites-nous, Arsène, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir, pour avoir un bon dossier de voyage?
Merci Jordi. Pour préparer un dossier pour une demande de visa, il faut d'abord réunir certains éléments, entre autres un passeport en cours de validité. Il faut avoir son assurance voyage et vous devez bien vous assurer que l'assurance que vous obtenez couvre au minimum 30 000 euros d'événements. Pour faire votre réservation de billets, il faut présenter votre relevé bancaire de 3 derniers mois avec solde et mouvement. Et puis, il faudrait pour le travail présenter une attestation de service, une attestation de congé ou une ordre de mission, ou soit encore un document de titre médical qui autorise la personne à aller prendre des soins. Les bulletins de paie de 3 derniers mois et aussi il faudrait que la personne puisse présenter certains documents. Si la personne est mariée, il faudrait que la personne présente son acte ou attestation de mariage. Si la personne a des enfants, il faudrait qu'il présente les actes de naissance des enfants. Et pour les enfants en âge de scolarité, il faudrait présenter les documents scolaires et le preuve de paiement. C'est-à-dire, en gros, c'est à peu près ça. Mais il y a aussi certaines choses qu'on peut demander ou exiger.
Voilà, Arsène, pourquoi on demande tous ces documents pour obtenir les visas?
En fait, on demande tous ces documents pourquoi? Parce que il y a un problème. Maintenant, pour certaines personnes, voyager devient comme une issue de sortie. C'est-à-dire, la personne voyage pour ne plus rentrer. Mais ces pays-là qui vous accueillent devraient connaître tous les intérêts que vous avez dans votre pays. Et ces intérêts-là feront à ce que vous rentrez dans votre pays pour éviter l'immigration clandestine. C'est-à-dire, c'est pourquoi on exige tout ça. La personne doit fournir ses éléments en vue de présenter un document complet et qui rassure aussi les pays qui vous accueillent que vous allez rentrer après les séjours sollicités.
Voilà. Et pourquoi prenons par exemple le cas de passeport, pourquoi on exige toujours un passeport en cours de validité et d'au moins 6 mois?
6 mois après la date de la fin de votre séjour. Parce que arrivé sur place, il peut y avoir des aléas, la personne tombe malade, la personne a un problème, un accident. Cette personne devrait prolonger, par exemple, son séjour. Et on prolongera son séjour comment, si le passeport n'est pas en cours de validité?
Voilà, c'est pour cela qu'on demande toujours un passeport valide d'au moins 6 mois.
6 mois après la fin de la date du séjour sollicité.
Voilà. Alors, vous avez parlé également de l'assurance. Alors, où faut-il obtenir cette assurance? L'assurance ou voyage?
L'assurance voyage, on les obtient dans les agences de voyage. Par exemple, chez moi aussi, j'en vends. C'est-à-dire, si une personne veut une assurance, elle vient avec son passeport, on souscrit à l'assurance et on lui remet son assurance et la personne paye.
Et quel est le rôle de cette assurance voyage que vous délivrez?
Quand la personne a cette assurance, arrivée dans le pays de destination, la personne peut tomber malade. Et que si elle a cette assurance, elle peut se présenter chez l'assureur et l'assureur l'orientera dans un centre médical où la personne prendra les soins gratuitement parce qu'elle a payé cette assurance. Et ces frais-là seront couverts jusqu'à hauteur de 30 000 euros. La personne peut mourir pendant son voyage. L'assureur va rapatrier la dépouille de la personne qui avait souscrit à l'assurance. C'est ça le rôle de l'assurance.
Oui, et de l'assurance médicale. Alors, généralement, on paye combien pour obtenir cette assurance?
Oui, ça dépend d'une assurance à une autre. Généralement, de 0 à 10 jours, c'est entre 80 $. Et puis, de 10 à 20 jours, c'est 105. C'est-à-dire, ça dépend d'une assurance d'une autre. Et, généralement, ça varie entre cette fourchette des prix.
Voilà. Mais par exemple, vous avez donné le cas de quelqu'un qui voyage et qui décède de l'autre côté. Est-ce qu'avec 80 $, on peut rapatrier le corps?
Oui, généralement, quand vous lisez la police d'assurance, elle dit ceci. L'assureur couvre les frais d'hospitalisation jusqu'à 30 000 euros. Et il y a les frais judiciaires. Arrivé là-bas, la personne a un problème en justice. C'est-à-dire, l'assureur va payer les honoraires de l'avocat jusqu'à 1500 euros. Et si la personne décédée là-bas, l'assureur prend en charge jusqu'à 155 000 euros. Ça, c'est selon les assurances que moi, je vends. C'est-à-dire, rien que à ces prix-là de 80 euros, vous pouvez bénéficier de toutes ces faveurs-là.
D'accord. Donc, il faut réunir à acheter son assurance. Cet élément doit être dans votre dossier. Et vous avez parlé également de la réservation de billets. Oui. De quoi s'agit-il?
La réservation de billets, c'est pas un billet. C'est-à-dire, je réserve, je n'ai pas acheté, mais je présente ces documents à l'ambassade en disant que voilà, j'ai déjà pris mes précautions. J'ai même fait une réservation de mon transport. Aller-retour.
Voilà. Et cela rassure, l'ambassade?
Oui, évidemment, parce qu'ils savent que, bon, voilà, vous avez une réservation, et cette réservation-là, elle est en train de concorder avec les dates qu'il y a dans le formulaire. C'est-à-dire, c'est une preuve aussi qui dit que, bon, dans les démarches que vous êtes en train de faire, il y a une concordance.
D'accord. Alors, un autre élément, vous avez parlé du relevé bancaire. Pourquoi on exige toujours le relevé bancaire?
Oui, le relevé bancaire...
Du requérant.
Du requérant. C'est ce qu'on appelle les subsistances, les frais de subsistance. C'est-à-dire, la personne qui voyage doit avoir des moyens pour se prendre en charge pendant son séjour. C'est-à-dire, et pour cela, on exige que la personne amène son relevé bancaire des 3 derniers mois. On observe le mouvement, on voit ce qu'il y a comme solde là-bas. Au moins, on sait se dire que la personne, on sait voir d'où vient son argent. C'est-à-dire, l'argent ne vient pas d'un canal malhonnête, d'un réseau qui n'est pas clair, mais de quelque chose qui est clair, qui est ouvert, qui est connu. Et c'est pourquoi on existe là.
Mais il y a des gens qui ont un peu d'argent, mais ils n'ont pas de compte bancaire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là?
Ah, là, Jordi, il faudrait recourir à la culture bancaire. Là, il faut vraiment avoir un compte.
Il faut absolument avoir un compte. Mais pour d'autres, par exemple, on lui envoie une prise en charge. par un membre de la famille qui est à l'étranger.
Oui, il y a aussi les cas échéants où on envoie des prises en charge. Là aussi, il y a toute une procédure à respecter. La personne qui envoie la prise en charge devrait envoyer non seulement la prise en charge, mais devrait envoyer aussi des documents tels que l'attestation de composition des ménages qui va démontrer que la personne est en mesure d'accueillir la personne qu'elle invite, c'est-à-dire elle a un cadre adéquat qui pourrait abriter une autre personne. La personne devrait envoyer ses preuves de paiement du loyer, les preuves de paiement de ses factures d'eau et d'électricité. La personne devrait envoyer les extraits des rôles, c'est-à-dire les preuves de paiement des impôts. La personne devrait envoyer ses bulletins de paye, son extrait bancaire avec solde. C'est-à-dire, il faudrait que la personne prouve réellement qu'elle est en mesure de prendre en charge la personne qu'elle invite. Et qu'à la fin du séjour, la personne va rentrer. En fait, c'est tout ce qu'on demande aussi.
Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Il faut réunir tous ces documents.
Il faut les réunir,
sinon vous réduisez vos chances d'obtenir le visa.
Voilà.
Que vous sollicitez. Alors, vous avez parlé également de celui qui va, par exemple, en tourisme. Il a pris ses congés, il veut voyager. Il doit aussi apporter la lettre de congé, c'est
ça? La lettre de congé avec les dates précises de son congé et la personne qui voyage, si elle ne connaît pas la ville, c'est la première fois qu'elle y va, elle doit préparer aussi un plan touristique. C'est-à-dire, c'est un guide qui lui permet de connaître les différents endroits d'attraction, les différents endroits où les gens vont visiter très souvent. Et ça lui permettrait de ne pas se perdre.
Voilà. Mais prenons le cas, par exemple, d'une dame dont le mari vit en Europe depuis plusieurs années. Maintenant, elle entreprend des démarches pour le regroupement familial. Alors, quels sont les documents, quelles sont les pièces qui doivent constituer son dossier?
Pour le regroupement familial, c'est-à-dire, par exemple, dans les cas que vous venez d'évoquer, les maris doivent commencer par déclarer sa femme de l'autre côté. Et une fois que la démarche est faite, ici, on exigera à la femme de se présenter à l'ambassade avec les preuves qu'ils sont réellement mariés et certains documents lui seront exigés. Et puis là, elle n'a pas beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire elle ira rejoindre son mari. C'est par rapport à ce que son mari aura fait de l'autre côté. Et elle ne fera qu'un complément de dossier ici sur place. Et puis, elle pourra rejoindre son mari une fois l'avis favorable.
Mais il y a aussi des gens qui ont réuni, qui ont constitué des dossiers en bonne et due forme. Ils ont déposé à l'ambassade, mais les dossiers ont été rejetés. Et peut-être plusieurs fois. Alors, comment expliquez-vous cela?
Jordi, quand on refuse ou on rejette un dossier, sûrement il y a toujours des raisons. Pourquoi? C'est-à-dire, quelque part, il y a eu un élément, il y a eu une procédure qui n'a pas été respectée. C'est-à-dire, quand vous voyez, par exemple, le papier qu'on remet au moment où on vous donne la réponse, si c'est négatif, la réponse, on dit très souvent, votre bonne volonté a quitté l'espace après les séjours sollicités n'a pas été prouvée. Vous voyez, c'est-à-dire, les gens ne prouvent pas qu'ils auront la bonne volonté de quitter le pays qui les accueille après les séjours sollicités. C'est-à-dire, il faut vraiment prouver que nous avons tous les intérêts dans notre pays, nous avons des choses qui feront assez que nous ne puissions pas partir trop longtemps, nous devons revenir, nous travaillons ici, nous avons des activités, nous avons de la famille ici. Si vous prouvez tout cela, c'est-à-dire, je pense que ils vous accorderont les visas sans problème.
Bien, nous avons deux auditeurs en ligne, Jerry Mido et Cyril Ekwe, tous les deux sont à Bandundouville.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, Explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La Tribune de la Presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Comment préparer un bon dossier de voyage? Jérémy Do, vous êtes à Bandundouville. Bonjour.
Oui, bonjour, Jody Kachama. Bonjour à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Jerry?
Bon, là, je profite pour vous souhaiter d'abord une bonne fête parce que c'est la première émission où j'ai intégré en 2016.
Merci beaucoup.
Ok. J'ai une seule question à poser à l'invité. Est-ce que quelle différence existe-t-il entre passeport et visa? Et je demande à l'invité, est-ce que les deux documents se donnent la même fois ou on donne d'abord l'un et l'autre, on donne ça après? C'est ça ma préoccupation.
D'accord. Cyril Ekwe, vous êtes aussi à Bandundu. Bonjour.
Oui, bonjour Jeudi. Bonjour à l'invité. Bonne année à tous les journalistes vertébrés de la Radio Capi.
Merci. Bonjour. Bonne année à toi aussi, Cyril. Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup Jeudi. Je suis très content parce que vous avez invité quelqu'un qui a vraiment de la matière et qui est suffisamment pratiquement argumenté, parce que nous avons aussi de telles préoccupations au niveau de notre province, au niveau de notre ville. Excusez-moi de pouvoir poser la question à l'invité. Je pense que l'invité nous donne des conditions prérequis pour obtenir les visas dans une ambassade, bien entendu, et aussi les quelques éléments constitutifs, bien sûr. Mais il a parlé d'une manière globale. Mais je devrais me rassurer ici, par, bien sûr, cette émission, parce que l'invité est là. Et effectivement, l'invité a parlé pour les cas des travailleurs. Il dit pour les cas des travailleurs, il faut pratiquement une attestation des services ou des congés, ou bien un document de titre pratiquement médical qui fait foi au niveau de l'ambassade. Ça, c'est bon. Mais je voulais particulièrement qu'il essaie de pouvoir nous expliquer pour les cas de celui qui va à l'étranger pour des raisons d'études. C'est-à-dire, il est déterminé d'aller étudier à l'étranger. Alors, quels sont les éléments constitutifs de ces dossiers qu'il doit pratiquement préparer? Ça, c'est primo. Secundo, quelle est la procédure à suivre pour que l'étudiant qui est en train de chercher comment accéder à l'étranger pouvait obtenir demain pratiquement son visa? Ça, c'est un. Bon, ça, c'est pratiquement la prime, je pense que la prime, préoccupation pour moi. La dernière préoccupation, c'est celle-ci. Vous, je dis, vous avez posé la question à l'invité par rapport à la femme qui veut rejoindre son époux à l'étranger. C'est-à-dire, l'invité a dit, il faut que le mari qui est là-bas déclare sa femme pratiquement de l'autre côté-là. Et ensuite, la femme va se présenter à l'ambassade. Et bon, l'ambassade n'aura pas certaines exigences, un peu en profondeur, bien sûr, mais elle va simplement compléter quelques dossiers seulement. Mais je dirais, quels sont les documents qui font foi à l'ambassade que réellement, cette femme-là qui vient, que le mari a déclaré là-bas, hein, en fait, pratiquement de l'autre côté, que c'est sa femme légitime et qu'elle mérite d'obtenir le visa et ensuite rejoindre son mari à l'étranger? Voilà les deux grandes préoccupations que je voulais que l'invité essaie un peu de m'éclaircir, c'est-à-dire pour un étudiant, pratiquement, et ensuite pour la femme. Bien sûr, merci Jeudi.
Bien, merci Cyril. Simon Ekoulou, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Ouais, bonjour.
On vous écoute, Simon.
Ok. Ma question, je vais poser à l'invité, parce qu'il nous dit qu'il faut avoir déjà l'assurance, l'assurance médicale. Est-ce que l'assurance et la réservation, il faut l'obtenir avant l'obtention du visa ou après? Parce qu'on ne sait pas, on va accepter votre demande ou pas. C'est pourquoi je demande à ceux que, si on peut faire la réservation avant ou acheter l'assurance avant ou après. Parce que nous avons eu un cas avec un papa de la famille. Mmh. Son frère était mort et puis fallait voyager. Mais il est allé à l'ambassade. Ce gars-là était docteur là-bas en France. Mais on lui a refusé. On lui a refusé le visa au moment où son frère avait tout l'argent.
Oui, vous dites que Simon, son frère est mort en France, il voulait aller là-bas pour le deuil.
Ouais. On lui a refusé le visa. Au moment où son frère avait l'argent, il avait une famille là-bas, mais l'ambassade n'a pas pu délivrer le visa. C'est ça. Il faut avant l'obtention du visa ou après pour avoir l'assurance et la réservation de l'hôtel.
Est-ce qu'il avait bien constitué son dossier, toutes les pièces que l'ambassade avait exigées étaient là?
Mais oui, bien sûr, il avait tout. Il avait tout. Et puis on a fait traîner les corps à la morgue jusqu'à ce qu'il arrivera, mais on ne lui a pas livré
le visa.
D'accord. Est-ce que ces gens-là aiment qu'on visite leur pays ou pas? Or, quand tu viens ici, c'est facile.
D'accord. Ma question. Merci Simon de Kinshasa. Bien, monsieur Arsène, vous avez la parole.
Oui, je commence par monsieur Mido du Bandundu. Mm-hmm. Oui, il voudrait connaître la différence entre un passeport et un visa. Oui. Un passeport, c'est un document. C'est la carte d'identité. Ici au Congo, la carte d'identité que nous avons pour l'instant, c'est la carte d'électeur. Le permis de conduire et aussi une carte d'électeur, le permis de conduire et aussi les passeports. La différence est que le permis de conduire, la carte d'électeur sont des cartes d'identité qu'on utilise au niveau national. C'est-à-dire, pour passer d'un pays à un autre, il faut une carte d'identité internationale. C'est ce qu'on appelle les passeports. Les passeports, on l'obtient auprès du ministère des Affaires étrangères. Maintenant, les visas sont délivrés par les ambassades ou les consulats. C'est-à-dire, c'est ça la différence. Les visas, on les obtient à l'ambassade du pays dans lequel on voudrait se rendre. Les passeports, c'est l'État congolais qui les délivre. C'est ça la différence.
Et on peut dire que le visa, c'est en fait une autorisation.
C'est une autorisation d'entrée et de circuler sur un sol.
Voilà. Et comment cette autorisation se matérialise? Ça peut être un cachet qu'on...
Ça peut être un cachet ou des timbres.
Ou des timbres qu'on place sur votre passeport.
Passeport, voilà. Ça diffère d'un pays à un autre. Il y a des pays où il y a des timbres, il y a des pays où c'est encore des cachets.
Bien. Alors Cyril est aussi à Bandundu. Il dit pour quelqu'un qui veut voyager pour des raisons d'études, quelles sont les pièces à réunir pour présenter un bon dossier?
Voilà. Pour une personne qui voudrait faire ses études dans un autre pays, par exemple, cette personne d'abord devrait obtenir son diplôme d'État. Une fois le diplôme d'État obtenu, il devra légaliser son diplôme au service du notaire à l'hôtel de ville. Et une fois ce diplôme-là légalisé, la personne devrait contacter l'université dans le pays où il voudrait aller étudier. Une fois le contact pris, la personne devrait faire une demande d'inscription. Si la demande d'inscription est accordée, on lui envoie la lettre d'admission, de confirmation d'admission. Avec cette lettre-là, la personne va se présenter à l'ambassade. Et là aussi, elle devra présenter d'autres documents. Entre autres, elle devra présenter les garants, c'est-à-dire qui paye pour lui les Minerva. La personne devrait présenter un relevé bancaire avec une subsistance conséquente qui pourrait prendre en charge le paiement de ses frais académiques. Parce qu'on ne voudrait pas que l'étudiant arrive là-bas, une année payée, et l'autre année, elle ne parvient pas à payer. Et là, la raison pour laquelle il avait sollicité le visa n'a plus de raison d'être. C'est-à-dire, une fois cela, il faudrait présenter des documents tels que les liens des parentés qui existent entre celui qui prend en charge le Minerval et l'étudiant. Il faudrait que cet étudiant-là présente une attestation de bonne vie et mers. Il faudrait qu'il présente son passeport il faudrait qu'il y ait aussi une assurance qui va couvrir son séjour durant ses études. Et puis, je pense que si une fois tous ces éléments réunis, la personne se présente à l'ambassade, et là, il n'y a pas trop de complications pour des raisons d'études. Il suffit que le document soit bien constitué, il suffit que tout soit réuni, et là, généralement, on donne une année de visa, parce que c'est pour des raisons d'études. Arrivé là-bas, si la personne étudie bien et qu'elle réussisse, directement, c'est l'université qui demande pour elle qu'on puisse rallonger son visa. Et ça se passe comme ça.
Bien. Avant de reprendre à la deuxième question de Cyril, nous allons accueillir Laurent Okito de Kinshasa et Ismaël Mumpoi de Lubumbashi. Laurent, bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question?
Ok, merci beaucoup et bonne année.
Merci.
Merci.
Alors, j'ai des questions à poser à notre invité. Donc, la première, c'est de savoir maintenant les visas aéroportuaires. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à accorder les visas aéroportuaires sans qu'il y ait beaucoup de demandes ou quoi que ce soit, mais on vous montrer seulement votre passeport et payer les frais directement. On met les visas parce que moi-même, je suis bénéficiaire de cela à des reprises dans différents pays. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui motive cela, ces visas-là aussi instantanés comme ça. Allô?
Oui, allez-y.
Oui, et puis, deuxièmement, lorsque vous introduisez votre demande correctement et que l'ambassade vous refuse le visa, par exemple, est-ce qu'on peut aussi admettre assez qu'on puisse aller avec ça au niveau du tribunal, parce que souvent ça arrive aussi qu'on soit enivré pour refuser à une certaine catégorie de nombre de demandes. Alors là, est-ce qu'on peut aussi porter plainte contre l'ambassadeur ou comment?
D'accord. Merci. Ismaël Mumpoi, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel. Bonjour à tous les auditeurs.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation présente presque les inquiétudes concernant la manière et l'obtention d'un passeport. J'espère que ceux qui sont au centre, c'est-à-dire à la capitale, obtiennent le passeport sans difficulté. Mais nous qui sommes au périphérie, je vois qu'il y a plus de difficultés. Alors, quels sont quelques mécanismes que l'invité peut faire pourvu que ceux qui sont au périphérie puissent aussi obtenir le passeport sans difficulté?
Oui, Ismaël, ça c'est un autre débat. C'est pas le sujet du jour. Je crois que pendant la semaine prochaine, on tentera de parler de la procédure d'obtention du passeport. On aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine avec quelqu'un du ministère des Affaires étrangères. Si au moins on arrive à trouver un interlocuteur, on ne manquera pas d'aborder ces thèmes-là.
Donc, à la deuxième question, j'avais voulu dire. Maintenant, par exemple, au niveau du visa, nous voyons que du côté de la Zambie, leur visa, c'est presque quand tu sors presque 5 à 10 fois ton carnet de passeport peut s'achever. Mais pourquoi ne peuvent pas aussi collaborer pour vie qu'ils puissent aussi diminuer pour vie de nez et pas aussi finaliser plus vite aussi les passeports? Merci, c'est ça mes questions.
D'accord. Bien, monsieur Arsène, vous avez la parole. Revenons d'abord à la deuxième question de Cyril.
La femme qui voudrait rejoindre son époux.
Oui. Quel est le document qui fait foi à l'ambassade?
Le document qui fait foi, c'est l'acte de mariage. C'est-à-dire, généralement, les gens confondent. Il y a le mariage religieux, coutumier plutôt, et aussi le mariage civil. Les deux mariages, quand vous les faites, au niveau de la commune, on accorde ce qu'on appelle attestation des mariages coutumiers. Et puis, il y a aussi les mariages civils où on accorde l'acte des mariages. C'est-à-dire, c'est ces documents-là pour le mariage civil qui fait foi que les deux conjoints se sont unis en vertu de la loi dans les pays. C'est-à-dire, quand on présente ces documents-là au niveau de l'ambassade, l'ambassade va légaliser ces documents-là et la femme pourra faire parvenir ces documents à son mari, qui va aussi les présenter à son tour à l'office des étrangers là-bas. Et ainsi, on pourra directement attester qu'ils sont réellement mariés civilement.
D'accord. Nous avons Évariste Péloua de Calimi en ligne. Évariste, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre question?
Oui, ma question est celle-ci. Est-ce que les ambassades en tant qu'institutions de l'État ont des moyens pour sécuriser des personnes se trouvant dans des circonstances malheureuses pour le voyage?
Qu'est-ce que cela veut dire?
C'est-à-dire que la personne veut aller se faire soigner à l'étranger, ou soit s'il est dans un cas de la mort, est-ce que l'État peut aussi avoir des moyens pour le soutenir dans le cas du voyage?
Bon, ça c'est un autre débat. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus de comment bien constituer son dossier de voyage. Bon, peut-être que on va poser la question à l'auditeur pour quelqu'un qui veut aller se faire soigner en Europe. Est-ce que on va rapidement lui accorder le visa ou pas? On va le savoir tout à l'heure avec notre invité. Voilà. Passons maintenant à la question de Simon de Kinshasa. Il se pose la question de savoir s'il faut obtenir l'assurance médicale et la réservation de billets avant ou après l'obtention du visa. Il a donné le cas de son frère qui devait aller en France pour un cas de deuil, mais on lui a refusé le visa.
Oui, j'ai très bien suivi sa question, Jordi. L'assurance, puisqu'on parle de comment préparer son dossier pour une demande de visa, c'est-à-dire l'assurance et la réservation, c'est avant même de se présenter à l'ambassade, il faudrait réunir ces éléments. Il dit que bon, son frère, tout ça, il avait beaucoup d'argent, l'oncle n'a pas pu se rendre aux funérailles de son frère. Mais oui, parce que peut-être ces frères-là n'avaient pas des frais de subsistance, alors que l'autre qui est mort, c'est son argent. L'argent appartient au défunt et à ses enfants, à ses frères, pas à ses sœurs. C'est-à-dire, c'est tout à fait logique qu'on n'a pas pu lui accorder son visa. Soit il y avait un élément, il y avait des choses qui manquaient dans son dossier. L'assurance et la réservation, c'est avant l'obtention du visa. Ce sont des éléments qui vont concourir à l'obtention même du visa. C'est-à-dire, c'est ça, en fait, sa réponse.
Bien, Laurent de Kinshasa dit comment est-ce qu'on accorde facilement les visas aéroportuaires, peut-être sans avoir constitué un dossier, vous arrivez, on vous l'accorde après avoir payé.
En fait, ça dépend des services d'immigration d'un pays à un autre. C'est-à-dire, par exemple, je prends les cas pour Madagascar. Quand vous voulez vous rendre à Madagascar, si vous avez un passeport ici, c'est-à-dire c'est tout, vous téléchargez les formulaires, vous les remplissez, vous achetez votre billet, vous montez dans l'avion. Une fois arrivé là-bas, si c'est un séjour de moins de 3 mois, vous ne payez rien et vous présentez juste le formulaire et les photos et vous entrez, on vous donne le cachet, on vous donne le visa. C'est-à-dire ça, je pense que ça dépend des services d'immigration d'un pays à un autre. Ça, je ne sais pas trop donner des détails dedans.
Bien. Et Laurent dit, si, par exemple, vous avez bien constitué votre dossier et à la fin, on vous refuse le visa, alors est-ce qu'il y a, il y a une possibilité d'aller porter plainte contre ce service de l'ambassade?
Porter plainte, je ne pense pas trop, parce que les gens croient que généralement ces ambassades-là font sciemment de rejeter ou de refuser le visa. Mais Jordi, tu seras d'accord avec moi que quand par jour, par exemple, il y a 300, 400 personnes qui vont faire des demandes de visa, et sur ces 300, 400, il peut y avoir une vingtaine seulement qui ont bien constitué leur dossier. C'est-à-dire, c'est pas une mauvaise foi de la part des agents qui travaillent dans l'ambassade ou des ambassadeurs. C'est juste que dans cette procédure, il y a eu quelques documents qui n'ont pas été réunis. Et je pense que si vous voulez aller au tribunal, il faudrait apporter les preuves suffisantes que vous avez bien constitué le dossier et c'est une mauvaise foi. Et je mettrai ma main à couper que sur 5 procès ou sur 5 plaintes, en tout cas, aucun n'aura un avis favorable des juges parce que certainement, ces gens-là qui travaillent dans les ambassades sont professionnels. Ils connaissent et maîtrisent très bien leur travail Et je pense que c'est ces problèmes-là qui fait que la plupart n'ont pas de visa. C'est-à-dire, c'est pourquoi nous en parlons. Si ces gens-là éprouvent des difficultés, au lieu d'aller dans des tribunaux, venez plutôt nous consulter pour qu'on puisse vous aider à bien constituer votre dossier.
Monsieur Arsène, certaines personnes pensent que les ambassades suspectent tout le monde. Vous pouvez avoir un bon dossier, mais vous êtes toujours suspect. Donc, on craint que vous puissiez... parce qu'il y a des gens qui sont venus, qui se sont présentés avec des bons dossiers, mais qui ont disparu dans la nature de l'autre côté.
Ne nous livrons pas des procès d'intention. Moi, je pense qu'ils ne font que leur travail. C'est-à-dire qu'ils sont prudents, ils sont prévoyants et ils vérifient. C'est-à-dire, je pense que c'est ça. C'est pas que tout le monde est suspect, mais c'est juste ils sont en train de faire leur travail et ils les font bien, ils les font correctement.
Donc, si le dossier est bien constitué et déposé à temps, on a de fortes chances d'obtenir son visa sans problème.
Voilà. Voilà, on a vraiment des chances, comme vous le dites, s'il est bien constitué et s'il est dans le temps.
Voilà, et terminons rapidement avec cet auditeur Évariste Décalémy qui dit pour quelqu'un qui doit voyager pour des raisons médicales, il y a une urgence, la personne doit aller rapidement se faire soigner. Quels sont les éléments à réunir rapidement pour constituer son dossier?
Oui, la personne qui est malade, qui doit se rendre pour des soins, cette personne-là doit d'abord... amener un document de médecins d'ici, de Kinshasa ou de la RDC, qui sont en train de dire dans ces documents-là que la thérapie pour laquelle il devrait se déplacer ne peut être faite ici à Kinshasa ou ici dans notre pays. C'est-à-dire, en ce moment-là, c'est-à-dire la raison du voyage a un sens. Et puis, cette personne-là devrait présenter des moyens, c'est-à-dire les subsistances qui prouve qu'elle est en mesure de prendre en charge le soin médicaux et aussi son séjour là-bas. Si pas elle-même la personne, mais un garant, un membre de la famille qui a assez de moyens et qui se porte garant, qui signe une prise en charge en disant qu'il lui va prendre en charge les frais médicaux et puis les frais du séjour de la personne malade. Une fois ces aspects-là réunis, la personne devrait aussi quand même revenir sur cette procédure, passeport en cours de validité, assurance, réservation, billet. La personne devrait présenter des documents sur elle et des documents sur sa santé, c'est-à-dire des documents cliniques qui sont délivrés par les médecins.
D'accord. Merci Arsène Mumba Ngoy. Je rappelle que vous êtes le chef d'agence de l'agence de voyage 3G Service. Merci et bonne journée.
Merci beaucoup Jordi.